Me kisse pastil.
Me kisse pastil.
Oh, me kisse kisse pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 16 octobre. Aujourd'hui, une édition un peu spéciale, on va pas mal parler du danger qui pèse sur les associations avec le nouveau plan de budget pour 2026 qui est en ce moment même en train d'être discuté à l'Assemblée nationale et qui, bah, comme l'année dernière, menace à nouveau les radios associatives et même de manière encore plus méchante que l'an dernier. On y parlera aussi de l'ADARGE, une association qui accompagne les agriculteurs sur le Gard et qui elle aussi a besoin de vous pour soutenir son fonctionnement au niveau financier. Et puis on va parler des menaces à travers des procès sur de la presse indépendante. Et oui, alors que le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, le deuxième, hein, le gouvernement bis cornu, a dévoilé ce mardi 14 octobre son projet de budget pour ramener le déficit à 4,7% pour 2026, ce budget prévoit environ 30 milliards d'économies, et notamment des mesures qui vont toucher les contribuables. Le principe d'une année blanche, qui prévoit de ne pas indexer par exemple les prestations sociales ou pensions de retraite sur l'inflation l'an prochain, ça figure dans la copie du gouvernement, tout comme le gel du barème de l'impôt sur le revenu ou le doublement des franchises médicales. Ces mesures toutefois ne sont pour l'instant pas définitives puisqu'elles pourront être modifiées par députés ou sénateurs qui débattent en ce moment même et qui vont amender ou voter le budget puisque le Premier ministre pour l'instant s'est engagé à ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution. Et on parlera aussi des possibilités de censure hein, puisque des motions de censure contre ce budget ont été déposées à la fois par les Insoumis et par le RN. Alors celles du RN ne sont pas passées. La motion, elle n'a pas encore été discutée mais elle n'a très peu de chances de passer, vu en tout cas la manière dont le jeu électoral se passe. En revanche, la motion de censure des Insoumis, qui elle, est menacée peut-être de passer si notamment les députés socialistes s'y joignaient, eh bien finalement elle a été rejetée il y a quelques dizaines de minutes à peine, à 20 à 18 voix près. Avec la promesse notamment de suspendre la réforme des retraites, le Premier ministre reconduit a donc échappé à la censure. Celle-ci n'a recueilli que 271 voix, il en aurait fallu 289 pour être adoptée. Si le gouvernement échappe donc pour l'instant à la censure, les débats autour du budget commencent à l'Assemblée, notamment le projet de budget de la sécurité sociale, hein, qui prévoit des coupes plus importantes encore que celles du plan Bayrou de l'été dernier. Toutes ces économies risquent de frapper de plein fouet les usagers les plus vulnérables. Et je vous le disais, c'est en train de devenir un marronnier pour le mois d'octobre, puisque l'an dernier, on a fait aussi tout un foin à propos du plan de budget qui était proposé donc sous Bayrou et qui menaçait grandement les radios associatives. Et bien ça y est, après une année où ils ont reconduit les budgets, on est de nouveau sous les feux et c'est encore même plus violent que l'an dernier. Les radios associatives, je vous fais part d'un communiqué, Fabien vous l'a lu aussi avant dans l'agenda. Les radios associatives se sont donc alarmées hier d'un cataclysme budgétaire qui va entraîner, selon elles, le nouveau projet de loi de finances 2026, le PLF. Il est prévu dedans une baisse de 16 millions d'euros pour le fonds, le FSER, le fonds qui soutient les radios. Après des alertes similaires l'an dernier et la menace à l'époque d'une baisse de 10 millions d'euros du budget, le gouvernement avait finalement rétro-pédalé, notamment puisqu'il y avait eu dissolution de l'Assemblée et finalement adoption, donc rétablissement de la totalité de l'enveloppe du FSER. Pour l'année prochaine, en revanche, les radios demandent à nouveau au gouvernement de revoir sa position et de rétablir un soutien digne de l'importance des radios associatives pour notre société. Ça, ce sont les mots du communiqué du réseau Les Locales, dans lequel sont rassemblés la CNRA, Confédération Nationale des Radios Associatives, à laquelle Radio Escapade adhère, et également le SNRL, le Syndicat National des Radios Libres. Toutes les radios associatives s'insurgent donc contre cette baisse des crédits alloués au FSER. Celui-ci va passer de 35,3 millions à 19,6 millions d'euros. C'est une baisse de 44%. Cette décision n'est pas une simple mesure d'économie, elle porte un coup fatal à un pilier essentiel de la démocratie, de la culture et de la cohésion territoriale. Rappelle ce communiqué, la baisse de 44% du budget représente pour les radios associatives une nouvelle attaque frontale, ce qui pourra entraîner la disparition de plus de la moitié d'entre elles et menacer près de 80% des emplois du secteur. C'est environ 2400 postes directs et indirects. Allez, si on remonte à l'automne 2024, hein, c'était une baisse de 30% qui avait été annoncée. Et c'était la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qui avait rétabli ses crédits. Mais on a vu quelques petites saillies sur le contrôle de ces radios. Je vous en livre quelques extraits donc de l'an dernier, mais qui expliquent peut-être pourquoi c'est revenu à nouveau dans le débat, alors que ce n'est pas une énorme économie, vous l'aurez compris. À l'époque, c'était le vice-président du Rassemblement national, de la Commission des affaires culturelles et le rapporteur, donc aussi. Il s'appelle Philippe Ballard. Il avait rappelé au cours des débats du 22 octobre que si dans le paysage radiophonique cohabitent des stations tout à fait honorables et nécessitant un soutien, il y en avait aussi d'autres qui peuvent tenir à l'antenne des propos hors du champ républicain. Venant d'un élu du RN, c'est pas mal. Et qu'il serait nécessaire de faire le tri et d'attribuer les subventions sur des critères plus solides. Vous aurez donc compris d'où vient la balle. La ministre de la Culture, Rachida Dati, avait alors donné raison à ce Philippe Ballard en estimant que ces 750 radios n'étaient pas toutes de même qualité et de même niveau, et parfois de la même nécessité. La ministre était alors montrée favorable à ce qu'on mette des critères de contrôle. Visiblement, elle n'était pas très au courant de la manière dont le FSER est attribué, puisque ça représente un mois de boulot complet chaque année pour faire un dossier et noter action par action, quasiment émission par émission, tout ce qui a été fait, et notamment sur les domaines qui sont jugés un peu d'intérêt public. Ça concerne plus de 770 radios associatives. Ce FSER a été créé en 1982, suite à l'ouverture justement des ondes hertziennes à autre chose que le service public. Et ce fonds représente entre 40% et 50% des ressources des radios associatives. Pour qu'elles puissent en bénéficier, donc, la publicité ne doit pas dépasser 20% de leur chiffre d'affaires. Petite info pour Radio Escapade, vous le savez, c'est 0%. D'ailleurs, le rapport à la publicité était même intriqué dans ce fonds, puisque jusqu'en 2008, ce fameux FSER était financé justement par une taxe sur les publicités diffusées sur les autres radios. Depuis, ça a changé. C'est donc un budget qui incombe à l'État et notamment au ministère de la Culture. En tout cas, c'est une mission de communication sociale de proximité qui est gagée avec l'obtention donc de cette subvention. Et elle est définie à la lignée 15 de l'article 29 de la loi, je vous passe les détails, de 1986 en tout cas. C'est le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Effectivement, ça ne fait pas partie visiblement des grandes lignes de combat du RN. Pour terminer cette chronique, en 2024, pour nous, c'était 92 000 euros dans le budget. Hein. Et donc, s'il passe en l'état, ça fera une perte de 40 000 euros pour l'année qui arrive. Autant vous dire qu'on n'est pas sûr de continuer à émettre dans ces conditions. En tout cas, on va se battre, c'est ce qu'a déclaré à l'AFP Sylvain Delfau, le président du Syndicat National des Radios Libres, qui a bon espoir que des parlementaires déposent encore des amendements sur cette ligne du budget. Ben, on espère aussi. Et puis, on en profite pour rappeler que justement, le communiqué des radios libres n'est pas cantonné qu'à la seule activité justement liée au FSER, mais il s'élargit et il se joint au combat aussi de tous les secteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui sont touchés encore de manière encore plus drastique par les coupes budgétaires annoncées dans ce nouveau budget.
Maintenant, il faut nous écouter. Est-ce que là, on en a gros?
On en a gros.
La moulaga, donnez-moi de la moulaga. La moulaga,
On continue avec, dans les tristes nouvelles, hein, c'était hier aussi, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais l'Étuve, ce lieu qui regroupe pas mal d'activités, plus ou moins festives, mais aussi culturelles et artistiques, à Pondéreau, sur la commune de Sumène, a subi hier un gros contrôle pour l'obtention, enfin un gros contrôle sur sa qualité d'ERP, donc d'établissement recevant du public. Et eh bien, il y avait une quatorzaine de personnes, des gendarmes, la sous-préfète, tout le gratin des autorités de sécurité. Et eh bien, c'est une fermeture administrative qui a été actée suite à cette visite, une fermeture administrative pour une période d'au moins 6 mois. Et au moins 6 mois, ça sous-entendrait que dans ce délai-là, des travaux seraient faits pour la mise en conformité. Donc, pour l'heure et jusqu'à preuve du contraire, la cantine de l'Étuve, les jeudis, est fermée. Les espaces de musique, de répétition et les salles de sport. Globalement, l'Étuve, dans son entièreté, reste fermée administrativement. Une assemblée extraordinaire sera convoquée prochainement et on vous en tiendra au courant dès que possible, car ils ont besoin de soutien. Allez, j'enchaîne avec le média Le Point sur Montpellier qui demande un soutien, soutien surtout aussi moral puisqu'autre chose. Ils sont attaqués en justice par le bloc montpelliérain. A priori, les néo-nazis de ce bloc montpelliérain n'assument pas d'être traités de néo-nazis. L'un d'entre eux attaque donc le média Le Point en justice pour diffamation. Il est furieux qu'un syndicaliste l'ait désigné comme son agresseur et ça a été relayé dans les colonnes de ce journal. Le Point explique en avoir vu d'autres, mais ils ont besoin donc de votre soutien. Ça fait plus de 10 ans que ce média documente les méfaits de l'extrême droite sur Montpellier. Extrême droite qui oscille entre dissimuler son racisme ou assumer sa bêtise. Le bloc montpelliérain opte donc pour la seconde option. Salut hitlérien en public, sticker de tank nazi, avec dessus écrit « Montpellier, c'est l'Allemagne ». Opération commando dans un bar en communiste au Prolet à Alès, c'était pendant la feria. Eh bien, en janvier 2024, les membres donc, de ce bloc montpelliérain, tous des jeunes férus de sport de combat, se sont invités à un rassemblement d'agriculteurs à Montpellier pour intimider les journalistes et les militants en essayant donc de faire le tri dans les gens qui pouvaient participer à cette manifestation. Ils voulaient visiblement garder la main sur la cause des agriculteurs. Ils ont scandé « Ici, c'est les Blancs » et ont fini par être expulsés par les organisateurs eux-mêmes de la journée. En juin 2024, donc 6 mois plus tard, il tabasse un syndicaliste qui en sort avec une dent cassée, 42 jours d'ITT. Le Point, donc le journal, révèle alors les prénoms et l'initiale des noms qui figurent dans la plainte de cette victime. L'une de ces personnes mises en cause a écopé de 10 mois de prison avec sursis, un appel est en cours, et l'autre, non poursuivi, attaquait donc le journal pour diffamation, puisque son prénom et ses initiales ont été révélées. Le procès aura lieu la semaine prochaine, le 21 octobre à 13h30. C'est à la 17e chambre du tribunal de Paris. Le Point confirme et maintenir toutes les informations qu'il a fournies à l'époque, qui d'ailleurs ont été reprises par Mediapart. Et ils expliquent que cette plainte s'inscrit dans une longue série de procédures bâillons. Ce sont ces procédures qui visent à intimider les médias indépendants. Puisque Le Point enquête notamment sur les violences d'État, les dérives sectaires, les agressions d'extrême droite, les luttes sociales, les combines politiques, etc. Malgré les pressions, rappelle-t-il, aucun tribunal ne nous a jamais condamnés, car notre travail est sérieux. Cette plainte ne vise donc pas à établir la vérité, disent-ils, mais à bâillonner un média qui ne baisse pas les yeux. Et j'en profite pour aussi faire un petit clin d'œil à L'Empaillé, un journal de la presse plutôt d'Aveyron, qui eux aussi sont en procès avec notamment les tenants de la famille du groupe La Dépêche. Et on en parlera avec eux la semaine prochaine, puisqu'on on a calé une interview justement pour annoncer la sortie du nouveau numéro de L'Empaillé et aussi expliquer un petit peu justement ce à quoi ils font face en ce moment. On continue sur le milieu associatif, hein, c'est le leitmotiv de la journée, avec cette petite brève rappelée dans les journaux du reporter qui relate une enquête de Mediapart. On y lit que des associations qui sont jugées trop militantes se font sucrer leurs subventions. Alors que le monde associatif s'est massivement mobilisé le 11 octobre dernier contre la baisse des aides publiques, je vous en ai parlé, le journal Mediapart a révélé qu'un discret écrémage a lieu en plus de tout cela en coulisses. Depuis 2022, le ministère de l'Intérieur demande en effet que les renseignements territoriaux inspectent dans chaque département la liste des assos qui demandent une subvention au titre du Fonds de développement de la vie associative, le FDVA, des petites enveloppes auxquelles on a le droit pour soutenir, par exemple, acheter du matériel ou organiser des événements pour faire vivre les assos. Et cette subvention, souvent pour des associations très précaires, ça permet, ce n'est pas du tout du luxe. Et bien donc, le ministère de l'Intérieur essaye d'écrémer afin d'exclure donc de cette subvention les assos qui seraient jugées trop militantes. S'il n'existe pas de critères précis, qui guident cette censure, les associations ciblées sont le plus souvent, vous l'aurez deviné, de gauche, écologistes, féministes, altermondialistes, selon une note non publiée de l'Observatoire des libertés associatives qui a été reprise par Mediapart. 5 régions, une 50aine de départements appliqueraient cette directive et la saisine des renseignements fait désormais partie intégrante de la procédure d'instruction du dossier de subvention associative menée par les préfectures. Et une fois encore, tout cela, vous vous rappelez, a commencé bien évidemment avec la chasse aux méchants terroristes islamistes, puisque c'est en général avec suite à des attentats ou des choses comme ça qu'on fait passer ensuite des lois liberticides qui s'appliquent bien évidemment au reste de la société. Plusieurs associations écologistes, par exemple Alternativa Lyon, auraient été victimes de ce travail de sape, avec un impact financier non négligeable sur leurs actions, une sorte d'épée de Damoclès qui pourrait maintenant pousser les associations militantes à l'autocensure.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
On continue dans le soutien aux associations et on va parler de l'ADEARG aujourd'hui. L'ADEARG, c'est une association qui a été créée en 1999 par des paysannes et paysans soucieux d'ouvrir le monde agricole à ceux qui n'en sont pas issus. L'ADEARG du Gard défend donc et accompagne les petites fermes tournées vers l'économie locale et respectueuses de leur environnement. Créée il y a 25 ans donc pour accompagner ces personnes dans des projets d'installation agricole avec le soutien, la formation, le dimensionnement de la ferme, les aides à faire le lien avec les objectifs personnels, créer du réseau, etc. Et depuis ces dernières années, l'ADEARG accompagne également les projets de transmission et d'installation en collectif. Ils et elles donc font face aujourd'hui à des problèmes de trésorerie. Ils font appel donc pour la première fois au grand public et nous étions avec Elsa en studio pour expliquer tout cela et vous donner aussi les liens du financement sur Hello Asso. Alors Elsa, tu es une des administratrices de l'ADEARG, donc qui est une association qui œuvre dans le Gard. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les buts, le projet en fait de l'ADEARG ?
Alors l'ADEARG, c'est une asso qui accompagne les paysans dans leur installation, qui leur permet de faire des formations, notamment administratives essentiellement. Il y a 2000 personnes qui ont été accompagnées dans un projet d'installation depuis l'existence de l'ADEARG. Faut savoir que c'est départemental, mais en fait, il y en a dans tous les départements et c'est une émanation de la Confédération paysanne. Ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Et en fait, il y a peu de gens qui en ont entendu parler. On entend toujours parler de la Chambre d'agriculture et on pense que tous les paysans s'installent au travers de la Chambre d'agriculture. Mais en réalité, il y a aussi d'autres organismes qui sont habilités à le faire. Et voilà. Et on s'occupe essentiellement, évidemment, de projets plutôt sur petite surface. Quasiment tout en bio. Bon, c'est pas obligatoire, mais beaucoup de gens sont en agriculture biologique. Et beaucoup de personnes qui viennent nous voir, en fait, sont non issues de familles agricoles, ce qui est aussi un cas particulier.
Donc sur l'installation, des fois, de gens qui cherchent de nouveaux formats ou aussi pour les problèmes de transmission qui sont compliqués, on le sait, dans l'agriculture.
Oui, tout à fait. Il y a aussi un volet transmission qui est super important. Donc transmission reprise des fermes, parce que comme vous le savez, la population agricole est vieillissante. Dans une dizaine d'années, en fait, il y aura à peu près 50% des paysans qui partiront à la retraite. Et il n'y a pas du tout le renouvellement qu'il faut. Donc on est un peu inquiet de ce côté-là. Donc il y a un volet sur la transmission, aider à reprendre des fermes. Il y a aussi des relations avec les communes, les communautés de communes par rapport au PAT, donc au projet alimentaire territorial. Il y a des présentations au grand public de ciné-débat, une expertise donc des dynamiques agricoles du territoire gardois, etc. Donc on est vraiment inscrit dans le paysage en fait au niveau agricole, sauf que le grand public nous connaît très peu.
Et d'ailleurs on a parlé de vous il y a peu de temps parce que on a interviewé aussi des gens du réseau Impact 30 dans lequel vous êtes aussi impliqué vers une agriculture aussi plus proche du territoire et citoyenne. C'est vraiment tout un collectif d'associations et d'organismes qui essayent justement de promouvoir d'autres modèles dans lequel vous vous inscrivez.
Oui, tout à fait. Il y a aussi le CIVAM bio, il y a plusieurs autres organismes en fait qui se regroupent aussi pour aider à chercher du foncier, ce qui est un des gros soucis actuels. Ben, on continue d'être sur le terrain malgré toutes les difficultés et puis c'est toujours l'urgence en fait parce que les gens sont contents de voir des produits locaux au marché, de voir qu'il y a des boutiques paysannes ici. Alors il n'y en a pas dans toutes les régions ni tous les départements de France, loin de là, mais en fait tout ça peut devenir très vite juste une vitrine de boule à neige dans pas longtemps si on ne nous soutient pas, parce que en fait c'est vrai qu'il y a déjà c'est pas facile d'être paysan, les revenus sont très faibles, mais en plus c'est un peu le parcours du combattant pour s'installer, donc si on n'a pas des associations comme ça, ça devient très compliqué.
Et alors on va arriver justement au nœud du problème. Tu es venu ici pour parler plus précisément d'un nouvel enjeu auquel vous faites face, c'est le problème du financement qui réduit, et donc pour payer au moins ne serait-ce que les salariés qui font tout cet accompagnement, il y a une base financière nécessaire, et donc vous êtes en train de changer de modèle de financement, c'est ça?
Alors c'est un peu malgré nous, parce que jusqu'à présent en fait c'était des financements de subventions qui étaient recherchés par les salariés. Donc là, on est 4 ou 5 administrateurs. Les administrateurs sont des paysans. Donc on a très peu de temps, mais on essaie de consacrer un peu de temps à l'administration. Et en fait, la DERC, c'est surtout 5 salariés qui sont formateurs, qui ont beaucoup de pain sur la planche et de qualités différentes. Et en fait, ils cherchent eux-mêmes des subventions auprès de l'Occitanie, des régions, du Fonds social européen, etc. Sauf que 5 salariés, ça engage des gros frais de fonctionnement. Et en fait, il y a une baisse depuis plusieurs années là des financements, que ce soit à cause de la fusion des régions, la diminution donc des subventions, l'interruption du Fonds social européen sur les lignes agricoles et des diminutions des financements de fonctionnement un peu de toutes parts quoi. Donc on lance un appel aux dons qui s'appelle Gardons nos fermes. Si on tape Gardons nos fermes à Déargues sur Google, on tombe sur cette page. Et donc c'est la première fois qu'on fait appel au grand public. Alors ça peut paraître un peu bizarre, nous ça nous a paru bizarre aussi, mais en fait pourquoi pas, on s'est dit là c'est un cap à passer, ce sera j'espère pas chaque année et c'est ponctuel, mais on a un objectif de 25 000 euros qui manque dans la caisse et on l'a pas eu en subvention. Et après tout, le fait d'installer des paysans dans les villages alentours pour avoir une nourriture locale, ça concerne tout le monde. Donc on lance un appel aux dons. Donc il reste 25 jours et je vous invite à y contribuer fortement.
Donc plus que 25 jours, vous pouvez participer vous aussi. Et à noter que si vous êtes aussi dans une structure, vous pouvez aussi décider de participer. C'est ce qu'on fait par exemple la fourmi et la cigale, on en a parlé au micro la semaine dernière, qui ont décidé aussi de participer avec un chèque en tant qu'organisme, donc qu'individu moral.
Ou c'est des entreprises ou des associations, on cherche des mécènes. Par exemple des entreprises qui sont aussi uniquement dans le Gard évidemment, qui sont reliées à l'agriculture biologique en général, et donc on fait des démarches de mécénat, il y a les Biocop qui nous accompagnent, et là ce sera on leur demande quelques milliers d'euros, que ce soit sur un an ou deux ans, pour essayer justement de parer à ce manque de subventions et peut-être un peu voir aussi sur le long terme, parce qu'il faut qu'on embauche une nouvelle personne, parce qu'en réalité le travail ne baisse pas, il y a énormément de porteurs de projets qui tape à la porte, ce qui est positif. Et il y a beaucoup de projets de communes par rapport au plan alimentaire territorial qui se développent, donc qui nous demandent des expertises. Il y a aussi les transmissions de fermes qui sont de plus en plus à l'ordre du jour, puisqu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Donc pour être à l'aise, il faudrait qu'on embauche une personne alors qu'on manque de financement. Donc c'est un peu dommage. Voilà.
Et puis en ce moment, les budgets nationaux ne vont pas dans le sens de renflouer justement les secteurs de l'économie sociale solidaire ou d'agriculture qui va dans une autre direction. Donc bah, faire un acte aujourd'hui, c'est aussi poser un acte politique. Est-ce que vous savez à peu près combien de projets vous accompagnez là sur les dernières années?
Alors là, j'ai pas les chiffres précis, mais je crois que c'est 150 à 200 projets par an. Mais il y a beaucoup de projets qui voient le jour et donc qui aboutissent et de fermes qui voient le jour. Il faut savoir que c'est plusieurs années pour s'installer entre la recherche du foncier, la constitution de la trésorerie pour acheter les machines, etc. et la demande éventuelle d'une DJA, par exemple, dotation jeune agriculteur, ou DNA, dotation nouvel agriculteur qu'on peut avoir à plus de 40 ans. Tout ça, c'est un long parcours et donc c'est vraiment un accompagnement sur plusieurs années. Voilà.
Vous pouvez retrouver justement des infos sur l'histoire et sur les activités de la DEARG dans le site agriculturepaysanne.org, voilà. Et vous saurez tout sur ce réseau de l'agriculture paysanne du Gard. Merci Elsa d'être venue donner quelques infos et puis rappeler qu'il vous reste 25 jours pour vous aussi faire un don. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà, donc c'est sur LOSO, c'est Gardons nos fermes. Vous pouvez donner à partir de 20 euros. Et la cagnotte, pour l'instant, est à 20% de l'objectif affiché. Alors, à quoi serviront vos dons? Vous l'aurez compris, à continuer d'accompagner les 180 personnes qui passent la porte de la DEARG chaque année. Des porteurs, porteuses de projets, des paysans souhaitant transmettre leurs fermes, les collectifs qui cherchent à améliorer leur fonctionnement. Allez, hardi les cœurs! On termine ces nouvelles du monde avec quelques nouvelles du processus de paix, si on peut l'appeler comme ça, qui a en ce moment lieu du côté de Gaza. Le nouveau point de friction entre les États-Unis et Israël, c'est la question de la restitution des corps. Alors que Washington souhaite entamer les négociations sur la deuxième phase du plan de Trump, qui comprend notamment la fameuse question de la gouvernance de Gaza, l'État hébreu lui bloque sur la restitution du corps des otages. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé hier soir que son pays reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, puisque le groupe palestinien n'a rendu que 9 des corps sur les 28 dépouilles attendues. J'ai retourné la mauvaise feuille, voilà. Mercredi, donc hier, le Hamas a affirmé avoir remis à l'État hébreu toutes les dépouilles d'otages auxquelles il avait pu accéder. Gaza est sous les décombres, ce qui signifie que l'extraction de certains corps est extrêmement difficile à accomplir, complétait la chaîne Al Jazeera. Les médiateurs ainsi que les responsables israéliens savaient que ça allait être un processus ardu. Mais Israël estime que le Hamas ne fournit pas tous les efforts nécessaires et n'agit ainsi pas en pleine conformité avec les termes de l'accord de cessez-le-feu, qui prévoyait donc que l'organisation palestinienne fasse tout son possible pour restituer les corps. Selon Axios, les responsables israéliens, donc l'agence de presse, les responsables israéliens reconnaissent qu'un petit nombre de corps sera difficile à localiser, mais ils estiment que 15 à 20 corps pourraient être rapidement rendus. Ce site américain précise aussi que des responsables israéliens et américains proches du processus de paix craignent que certains membres du gouvernement Netanyahou, en particulier donc les ministres ultranationalistes Smotrich et Itamar Ben-Gvir, et bien que ces ministres n'utilisent justement la question des corps des otages pour saper l'accord qu'ils contestent et pousser ainsi à la reprise de la guerre. Un autre commentateur pointe l'ironie macabre puisque c'est Tel Aviv qui interdit dans le même temps l'entrée du carburant ou des bulldozers qui seraient nécessaires justement pour fouiller ces ruines. Alors les États-Unis sont attendus pour essayer de régler cette situation. Il pourrait tenter de jouer le rôle de médiateur. Selon CNN, Washington aurait reçu des garanties de la part du Hamas que celui-ci ferait tout son possible pour localiser et restituer les corps restants, donc un gage de bonne volonté, et donc les États-Unis auraient prévu d'apporter leur aide. Nous allons probablement mettre en place un programme pour demander aux Gazaouis de nous aider à localiser les corps et nous offrirons des récompenses pour ce type de bonne conduite. Ça, ce sont les termes d'un des deux conseillers de Trump. C'est vraiment à vomir. Il a précisé enfin que les États-Unis étaient en contact avec la Turquie, qui est-il disposé à envoyer des experts pour aider à la récupération des corps, forte de son expérience en matière de tremblement de terre. Mais en revanche, l'ambiance n'est pas au beau fixe entre Erdogan et Israël, donc à voir si cette piste est envisagée. Je vais terminer avec, je ne sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas de la volonté. Il y a un article dans Bastamag qui s'intéresse à la situation de la Cisjordanie. Pendant que Trump vante son plan de paix pour Gaza, les attaques de colons en Cisjordanie contre des Palestiniens se poursuivent. Face à ces violences, des volontaires internationaux et israéliens tentent de soutenir les villageois et les cultivateurs sur place. Dans cet article, on suit donc des volontaires du groupe ISM, International Solidarity Movement. Ensemble, ils planifient la répartition des équipes de bénévoles qui sont venues du monde entier pour aider concrètement les Palestiniens, et ce, au sein des différents villages de la vallée du Jourdain, qui est une des zones les plus vulnérables aux attaques des colons israéliens. Les besoins sont énormes et nous ne sommes pas assez nombreux face à la recrudescence des attaques de colons, explique Rachid Kidiri, qui fait partie de l'organisation. Celle-ci, donc ISM, a été créée en 2001. Elle vise à soutenir et à renforcer la résistance populaire palestinienne en étant immédiatement aux côtés des Palestiniens, et notamment dans des endroits où les Palestiniens sont constamment harcelés ou attaqués par les soldats et les colons. International Solidarity Movement est guidé par des principes de non-violence. Des centaines de volontaires s'y engagent chaque année en Cisjordanie pour quelques jours, quelques semaines, voire même plusieurs mois. Les mobilisations citoyennes et les pressions diplomatiques se concentrent en ce moment sur la situation à Gaza, bombardée, affamée et sous blocus intégral. Donc la Cisjordanie se retrouve reléguée au second plan sur la scène internationale. Pourtant, ce territoire palestinien est le plus grand oublié du plan de paix proposé par Donald Trump, hein, et la colonisation israélienne s'y est accélérée depuis le 7 octobre 2023, notamment dans cette vallée du Jourdain. Celle-ci marque la frontière avec la Jordanie, où de nombreuses communautés bédouines ont été expropriées et déplacées de force. Plus d'un millier d'attaques ont été recensées par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au cours de cette simple année. L'organisation ISM et leurs volontaires donc est censée agir comme un dispositif dissuasif en combinant de l'observation, de la documentation et un accompagnement des communautés ciblées par les colons. Ces militants peuvent s'interposer physiquement entre les colons et les Palestiniens sans entrer en conflit, mais aussi participer aux travaux agricoles ou accompagner des éleveurs ou des bergers. Chaque militant international doit pour cela suivre une formation afin de se préparer à des situations difficiles ou même carrément au risque qui les menace. Depuis la création de l'ISM, plusieurs bénévoles ont en effet été tués par l'armée israélienne. On peut citer Rachel Corrie, c'est une états-unienne qui est morte en 2003, Ton Urdal qui venait de Grande-Bretagne en 2004 et plus récemment la turco-américaine Aishenour Exi Eigi. Elle a pris une balle dans la tête en 2024 au cours d'une manifestation à Beïta près de Naplouse. Plus d'une dizaine d'internationaux ont aussi été arrêtés puis expulsés depuis 2023, selon l'organisation. Les formations auxquelles ils sont formés justement permettent d'éviter aussi, par ailleurs, la posture du sauveur blanc, white savior, comme on dit justement dans les études décoloniales. C'est la posture de la part de militants occidentaux qui pourraient s'assumer justement et provoquer parfois des représailles. Par exemple, il est question de s'assurer que les personnes ne commettront pas d'actions qui pourraient déclencher des représailles contre les communautés palestiniennes. Nous sommes ici pour protéger et documenter. Nous n'avons pas besoin de héros, explique le coordinateur d'ISM, Rachid Kidiri. Nous devons agir intelligemment car les soldats et les colons n'attendent qu'un prétexte pour punir les communautés. Les groupes sont aussi composés d'ailleurs de militants israéliens qui viennent parfois pour la journée, le temps d'aider à une récolte. La situation est critique en Cisjordanie, explique Manal Tamimi, la coordinatrice du collectif Fazia. Celle-ci réunit des volontaires palestiniens, israéliens ou internationaux, spécifiquement justement pour accompagner les paysans de Cisjordanie dans leurs travaux. Pour elle, il est extrêmement important de venir ici sur le terrain et que les Palestiniens ne se sentent pas seuls. Les internationaux deviendront les témoins de ce qu'il se passe et à leur retour pourront interpeller le public et les décideurs, souligne-t-elle. Il faut continuer à mettre la pression. À peine la récolte 2025 commencée pour les olives, les attaques de colons contre les plantations d'oliviers, celles et ceux qui y travaillent continuent de se multiplier. Voilà, c'était juste quelques extraits de ce beau témoignage que je vous invite à aller consulter sur les pages du site Basta Mag. On se quitte sur ces nouvelles du monde un petit peu dures aujourd'hui et puis on vous donne des nouvelles très vite concernant la question notamment des finances qui vont nous permettre ou pas de continuer à faire tourner Radio Escapade. En attendant, tenez bon et puis on donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde.
Ce sera tout à fait...
Ha ha!
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.